الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم وقليل فاعله. أخرجه البيهقي عليكم السلام ورحمة الله. أخرجه البيهقي في شعبي بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. Donc le hadith il dit ici, le silence est hikam. Hikam c'est le pluriel de hikma. Donc c'est comme s'il disait le silence c'est des sagesses. Mais peu sont ceux qui le font. Donc ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi dans son livre, pas dans As-Sunan. Quand vous lisez Rawahu Al-Bayhaqi tout court, ça veut dire dans son livre As-Sunan Al-Kubra, qui est un livre qui contient plus de 20 000 hadiths. En fait, il y a des hadiths et il y a aussi des afar, des salafs. Mais là, il a ramené dans Shu'ab. Shu'ab, c'est un autre livre de l'imam al-Bayhaqi. C'est Shu'ab ul-Iman, les branches de la foi. Et ici, donc, Ibn Hajar, il dit, il l'a ramené avec une chaîne de transmission faible. Et il a authentifié que, c'est-à-dire al-Bayhaqi, qu'en fait, c'est de la parole de Luqman. Et non pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit « Al-hadithu fihi fadilatu samt wa annahu min al-hikma qala ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. » Donc le hadith parle du mérite du silence et qu'il fait partie de la sagesse. Et Allah dit à propos de l'être humain, il ne prononce pas une parole sans qu'il y ait auprès de lui un surveillant, un raqib. « Wa ja'a fil Bukhari anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal ما ضمن لي ما بين لحييه ورجليه أطمن له الجنة. Et dans le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux barbes, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il y a entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. وما أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. Et le hadith qui est dans Tirmidhi qui dit, est-ce que les gens ne seront bouleversés sur leur visage ou traînés sur leur visage si ce n'est à cause des récoltes de leur langue, c'est-à-dire à cause de ce qu'ils ont dit. وما أخرجه الترمذي من حديث عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة فقال أمسك عليك لسانك. Et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à propos de la réussite et il a dit retiens ta langue, c'est-à-dire pour réussir. وقال الحسن البصري ما عاقل دينه من لم يحفظ لسانه. الحسن البصري a dit n'a pas compris sa religion celui qui ne protège pas sa langue ou qui ne préserve pas sa langue. ذكر الغزالي من آفات اللسان. Donc je vous avais dit que des fois il mentionne ici des paroles de Al-Ghazali rahimahullah dans son livre Al-Ihya, qui est un livre un peu entre guillemets sur la spiritualité, et son livre il a été résumé ou alors corrigé on va dire par Ibn al-Jawzi, et ensuite le corrigé d'Ibn al-Jawzi il a été résumé par un de Al-Maqadisa, de la famille d'Al-Maqadisa, c'est-à-dire qui s'appelle Al-Maqdisi, je ne sais pas lequel c'est, qui a écrit, ça s'appelle Manhaj, subhanallah, Mukhtasar Manhaj al-Salikin. Non, pas Manhaj al-Salikin. Bon, en tout cas, il est traduit en français. C'est un gros tome rouge comme ça. Et Cheikh Abdullah al-Bukhari, quand il était venu à Aulnay-sous-Bois, il nous l'avait conseillé, ce livre. Donc ici, il cite Al-Ghazali qui dit, parce que Al-Ghazali, dans son livre de base, il y a trop de soufisme, et il y a trop de fausses croyances dedans, et il y a trop de hadiths faibles et inventés. Même si le shir ici, des fois, il en tire quelques profits. Donc de son livre, il dit, parmi les afat al-lisan, c'est-à-dire des dégâts causés par la langue, al-khawdu fil-batil, donc le fait de discuter dans ce qui est vain, wa-taqa'uru fil-kalam, ça je ne sais pas ce que c'est, wa-al-fuhsh, c'est-à-dire la vulgarité, wa-sab, les insultes, wa-sukhriya, le fait de se moquer, ou al-istihza, qui est aussi la moquerie, ou ifsha ou sir, le fait de dévoiler les secrets, ou al-mira, al-mira, à ma connaissance, c'est une sorte de vouloir paraître, ou al-jidal, le fait de débattre, la discussion, ou al-la'n, le fait de maudire, ou al-kadhib, le mensonge, والغيبة la médisance, والنميمة le fait de colporter les paroles des gens, والخصومة et le fait de se disputer. وبهذا نعلم أن الصمت المحمود هو عن الكلام المحرم الذي ذكرنا بعضه ومثله الكلام الذي لا فائدة منه إذ ربما يجر إلى الكلام المكروه أو المحرم. Donc Cheikh Abdullah al-Bassam dit, à partir de ça, nous comprenons que le silence qui est blâmé, c'est le fait de pas parler, de ne pas parler des paroles interdites, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire qu'on a cité en citant la parole de Al-Ghazali, rahimahullah, ou alors, pareil, les paroles, dans le même sens, les paroles qui n'ont pas de bénéfice, et qui peuvent amener par la suite aux paroles interdites, ou alors aux paroles déconseillées. Donc ce qui veut dire, c'est le conseil qui est loué, le silence qui est loué, le silence qui est demandé, c'est le fait de ne pas prononcer les paroles interdites et déconseillées, ou alors de ne pas prononcer les paroles qui n'ont pas de bénéfice, qui n'ont pas de faïda, et qui peuvent amener elles-mêmes aux mauvaises paroles. أما إذا كان الكلام فيما ينفع من التلاوة والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم ومباسطة الأهل والإخوان فهذا محمود. Il dit quant à la parole qui est utile, comme la lecture du Coran, le dhikr, le fait d'ordonner le bien, de blâmer le mal, le fait d'enseigner la science, et le fait, ici il rajoute et c'est important, le fait de al-mubasata, c'est-à-dire le fait d'être détendu avec sa famille et avec ses frères, ça il n'y a pas de mal dedans. Donc c'est aussi quelque chose de bien. C'est-à-dire le fait que tu aies des invités, et que, donc là c'est pas le shir qui dit ça, c'est une parole que je rajoute pour expliquer, le fait que tu aies des invités, et vous parlez, c'est-à-dire toi tu vas parler avec eux de tout, de ce dont ils parlent, tu vas parler avec eux. Ça on va pas dire que c'est une parole où il n'y a pas de faïda, tu aurais mieux fait de te taire, parce que c'est une invitation, et une invitation c'est fait justement pour qu'il y ait pour conséquence l'amour, al-mahabba, l'entente, ou alors des fois tu peux inviter des gens que t'as pas vu, tu vas leur demander comment ils vont, etc. Donc certes c'est pas de la lecture du Coran, c'est pas du rappel d'Allah, mais c'est quand même des paroles bénéfiques dans le sens où elles amènent al-mahabba entre les gens, elles amènent le lien entre les musulmans. واللسان لهذه الأغراض الفاضلة من نعم الله تعالى العظيمة ولطائف صنعه. Et la langue, quand elle est pour ces buts-là, elle fait partie des grands bienfaits d'Allah. فإنه ينطق بالإيمان والإسلام, car la langue prononce la foi et prononce l'islam. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه الآية الكريمة هي الفصل في قبيح الكلام ومليحه. Et il est dit dans le verset, il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs paroles. Najwa, c'est la parole faite, entre guillemets, en secret, isolée. Sauf celui qui ordonne une aumône, ou qui ordonne un bien, ou qui ordonne une réconciliation entre les gens. Donc il dit, ce verset, il tranche entre les paroles qui sont bonnes et les paroles qui sont mauvaises. On peut rajouter ici, c'est une faïda, ça n'a pas de rapport avec le silence. Mais des fois, quand on dit une faïda qui est hors du sujet, eh ben on la retient mieux que le sujet lui-même. Si on regarde le verset, Allah il nous dit, il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs paroles, sauf celui qui ordonne une aumône, ou un bien, ou une réconciliation entre les gens. Et la suite du verset, c'est quoi ? وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا كَبِيرًا. Si je ne me trompe pas, dans surat An-Nisa. Et celui qui le fait en cherchant la satisfaction d'Allah, il aura une grande récompense. Donc regardez comment Allah il a dit que dans leurs paroles, dans celui qui ordonne une aumône, ou celui qui ordonne un bien, ou qui ordonne une réconciliation entre les gens, Allah il atteste que ça, il y a du bien dans sa parole. Mais la récompense, il l'a mise que pour une sorte de personne. C'est celui qui le fait avec l'intention de satisfaire Allah. Vous voyez ? C'est-à-dire, ça nous aide à comprendre le premier hadith des 40 hadiths. Les actions ne dépendent que des intentions. Parce qu'ici, Allah il dit, il n'y a pas de bien dans leurs paroles, sauf. Donc ça veut dire, il y a du bien dans le fait d'ordonner un bien, d'ordonner une sadaqa, ou de réconcilier les gens. Et celui qui le fait en cherchant la satisfaction d'Allah aura une récompense. Ça veut dire, celui qui ne fait pas ça en cherchant la satisfaction d'Allah, mais il fait ça comme ça, parce que ça lui convient, ou c'est-à-dire sans penser à la satisfaction d'Allah, certes, il ne porte pas un péché, c'est pas un péché, mais il n'a pas non plus de récompense. Et pourtant, sa parole, il y a du bien dedans. Mais ça prouve que les actes qui sont bien en eux-mêmes et qui sont un bien pour les gens, ils ne sont pas forcément récompensés. Ils sont récompensés et ils sont une adoration qui te rapproche d'Allah si tu mets l'intention dedans que ça te rapproche d'Allah et de satisfaire Allah. Et ça, c'est cité par Ibn Rajab dans l'explication du premier hadith. Dans Jami' al-Ulum al-Hikam, il cite cette faïda. Un frère aussi, il a demandé sur Paltok, c'est quoi les quatre hadiths dont l'imam Abu Daoud, il a dit que l'islam est tourné autour. Donc ça, c'est une parole de l'imam Abu Daoud, il a dit, le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths sont en nombre, et il dit, j'ai mis 4000 hadiths dans mon livre. Et parmi ces 4000, il suffit qu'une personne en connaisse 4. Et il a cité le hadith, donc si je me souviens bien, innamal a'malu bin niyat, les actes ne dépendent que des intentions. Le hadith sur les innovations de Aïcha, le hadith qu'on a cité sur le fait de délaisser ce qui ne t'apporte pas, et le dernier, j'ai eu un doute. Est-ce que c'est le hadith, le haram est clair et le licite est clair, le hadith de Nu'man ibn Bashir, ou alors est-ce que c'est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, yukhlaqu ahaduhum fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, etc. C'est-à-dire l'un d'entre vous est créé dans le ventre de sa mère 40 jours comme un caillou de sang, puis 40 jours comme un morceau de chair. C'est un des deux hadiths, le quatrième. Et celui qui veut, il regarde au début de Jami' al-Ulum al-Hikam, il trouve la parole d'Abu Daoud. Et il y a une parole de l'imam Ahmed dans le même sens. Et il a dit trois hadiths, le hadith sur les intentions, le hadith sur les innovations, et le hadith sur le halal éclair et le haram éclair. Et il y a beaucoup de paroles comme ça chez les salafs, autour de 3, 4, 5 hadiths. قوله قليل فاعله لأن الناس مجبولون على القيل والقال وكثرة السؤال. Dans le hadith, il est dit, et peu sont ceux qui le font, c'est-à-dire le silence. Il dit shirk parce que les gens, ils ont été créés sur, ils sont attirés par al-qil wal-qal, les ont dit, les on a dit, et le fait de poser beaucoup de questions. Donc après il dit Babu Tarhibi min Masawi il Akhlaq. Le chapitre, donc toujours dans Al-Jami', chapitre du l'exhortation à délaisser les mauvais comportements. An Abi Huraira radiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Iyakum wal hasad, fa inna al hasada ya'kulu al hasanat, kama ta'kulu al nar al hatab, akhrajahu Abu Daoud, wal ibn Majah min hadith Anasin nahwuhu. Ici, il a dit Ibn Majata. En fait, c'est Ibn Majah. Il n'y a pas de deux points sur le A. Donc, dans le hadith, il dit ici, méfiez-vous de la jalousie, car la jalousie mange les bonnes actions comme le feu mange le bois. Donc, dans l'explication, il dit premièrement le hadith ou braif. Il dit que le hadith, il est faible. Donc, je ne vais pas vous lire le tahrij qu'il a dit ici. Mais on va quand même lire l'explication dans le sens où ça parle de la jalousie, puisqu'il va citer d'autres hadiths dans l'explication. Il dit donc Al hadithu fihi tahdhirun min al hasad wa wujub mujahadatihi wa anna wujudahu yadhhibu al hasanat wa yubtilu thawabaha kama ta'kulu an nar al hatab fataj'aluhu ramadan. Dit le hadith met en garde contre la jalousie et montre qu'il est obligatoire de combattre la jalousie. Et que la jalousie fait partir les bonnes actions et annule leur récompense, et qu'elle les mange comme le feu mange le bois. الحسد الذي نهى عنه هو أن يرى الإنسان نعمة الله عند آخر فيتمنى زوالها منه فهذا هو الحسد المذموم. Il dit la jalousie, الحسد, qui est interdite, c'est que la personne elle voit un bienfait d'Allah chez quelqu'un d'autre. Et elle espère qu'il parte, zawal. Elle aimerait bien que ce bienfait il cesse de cette personne. C'est ça le hasad, la jalousie qui est blâmée. الحسد قد جاء ذمه في الكتاب والسنة. قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهذا إنكار من الله تعالى لمن يحسد الناس على ما أنعم الله عليهم. Il dit la jalousie a été blâmée dans le Coran et dans la Sunna, comme Allah a dit. Ou alors est-ce qu'ils jalousent les gens sur ce qu'Allah leur a donné de sa grâce, Ça c'est dans Surat An-Nisa. Donc ça c'est un blâme de la part d'Allah pour celui qui jalouse les gens pour ce qu'Allah leur a donné comme grâce. وَجَاءَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدُ وَسُنَنِ التِّرْمِذِي مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين. Ici c'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous a touché le mal des communautés d'avant vous, la jalousie et la haine, qui est al-haliqa, c'est-à-dire celle qui détruit la religion. وفي الحسد آثار كثيرة وقد قيل إن أول ذنب عصي الله به الحسد حينما أمر الله إبليس بالسجود لآدم فحسده وامتنع من السجود فطرده الله من الجنة. Il dit, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de la jalousie, et il a été dit que le premier péché qui a été commis envers Allah, c'est la jalousie. Lorsque Allah a ordonné à Iblis de se prosterner devant Adam, Iblis a jalousé Adam et il ne s'est pas prosterné. Et c'est là qu'Allah l'a sorti du paradis. قال ابن رجب الحسد مركوز في طباع البشر وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. Ibn Rajab rahimahullah dit, la jalousie elle est implantée dans la nature des hommes. Et c'est, elle consiste à ce que l'être humain déteste qu'une personne soit au-dessus de lui. Une personne qui est du même jins, de la même nature que lui, c'est-à-dire un être humain, qu'une personne soit au-dessus de lui dans les bonnes choses. Et les gens, ils sont en diverses catégories et divers degrés dans la jalousie.
منهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل.
Parmi eux, il en est qui s'empressent de faire partir ce bienfait de celui qu'il jalouse en transgressant contre lui par ses paroles ou par ses actes.
ومنهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه.
Et d'autres, ils essayent de déplacer ce bienfait qu'il y a chez cette personne pour lui-même, envers lui-même.
ومنهم من يسعى في إزالة المحسود فقط من غير نقل ذلك إلى نفسه وهذا كله حسد مذموم وهي المنهي عنه.
Et parmi eux, il en est qui cherche à carrément faire partir celui qu'il jalouse sans parler de son bienfait, c'est-à-dire de le faire disparaître lui-même, la personne en elle-même. Et tout ça, donc, ça rentre dans la jalousie qui est blâmée, qui est interdite.
وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده ولم يبغي على المحسود بقول ولا بفعل وقد روي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك.
Il dit, il est encore une autre partie de gens qui, lorsqu'il jalouse quelqu'un, il n'agit pas en conséquence de sa jalousie et il ne transgresse pas contre celui qu'il jalouse ni par les actes ni par les paroles. Et il a été rapporté de Al-Hassan, donc je pense ici c'est Al-Hassan Al-Basri, donc ça peut être Al-Hassan le fils de Ali, mais généralement quand il dit Al-Hassan c'est Al-Hassan Al-Basri. Il a été rapporté de lui qu'il n'y a pas de péché dans ce genre de jalousie. C'est-à-dire une jalousie qui reste dans le cœur et qui n'est pas appliquée.
وقسم آخر إذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإبداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله وفي إزالة ما وجد في نفسه من الحسد حتى يبدل بمحبته.
Et il a encore une autre partie de gens, lorsqu'il trouve de la jalousie en lui-même, il cherche à la faire partir. À faire partir quoi? Non pas le bienfait de la personne, mais la jalousie. En faisant du bien envers la personne qu'il jalouse. Et en invoquant pour lui. Et en parlant de ses mérites. C'est-à-dire, il jalouse une personne, il sent ça en lui, et bien au lieu de faire du mal à la personne, il va carrément parler en bien de lui. Et en essayant de faire partir ce qu'il a trouvé en lui-même de jalousie et de l'échanger par de l'amour.
وَهَذَا مِنْ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْإِيمَانِ.
Et ça fait partie des plus hauts degrés de la foi.
وَصَاحِبُهُ هُوَ الْمُؤْمِنُ الْكَامِلِ الَّذِي يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.
Et ça, c'est le croyant complet qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même.
وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِي الْحَسَدُ نَوْعَانِ.
Et Cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di a dit, la jalousie est de deux sortes.
نَوْعٌ مُحَرَّمٌ مَذْمُومٌ.
Une sorte qui est interdite et blâmée.
وَهُوَ أَنْ يَتَمَنَّ زَوَالَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَنِ الْعَبْدِ.
C'est que la personne, elle souhaite voir partir le bienfait d'Allah sur une personne.
سواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه ولم يجاهد نفسه عنها أو سعى مع ذلك في إزالتها وإخفائها وهذا أقبح لأنه ظلم متكرر.
Il dit que la personne aime cette chose d'une façon constante dans son cœur, sans combattre son âme, ou alors au contraire, en essayant ensuite de faire partir ce bienfait et de cacher ce bienfait, et ça c'est encore pire, parce que c'est de l'injustice répétée.
النوع الثاني أن لا يتمنى زوال نعمة الله عن العبد ولكن يتمنى حصول مثلها له أو فوقها أو دونها وهذا نوعان محمود وغير محمود.
La deuxième catégorie de jalousie, c'est que la personne espère, ou plutôt n'espère pas, que le bienfait d'Allah parte de la personne qu'il jalouse, mais plutôt il espère que lui-même il acquiert ce même bienfait, ou encore mieux. Et donc cette sorte de jalousie, elle peut être louée comme elle peut être blâmée.
فالمحمود أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فيتمنى أن يكون له مثله فهذا من باب تمني الخير. فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك فهو نور على نور.
Donc la jalousie qui est louée, c'est qu'une personne elle voit un bienfait religieux, un bienfait d'Allah dans la religion sur une personne, et donc il espère être comme lui. Donc ça rentre dans tamanni al-khayr, c'est-à-dire le fait d'espérer le bien. Et si ça c'est accompagné d'un effort et d'une action pour avoir ce bien, que ce soit de la science ou la piété, etc., eh ben il dit c'est lumière sur lumière. Donc en fait ce qu'il veut dire ici, la jalousie qui est louée dans l'islam, c'est le fait que tu vois un bienfait religieux, que ce soit de la science ou de la piété ou des bons caractères chez une personne, et tu te dis j'aimerais bien être comme elle, j'aimerais bien avoir le même bienfait ou encore mieux. Donc ça c'est bien, et si en plus tu mets en pratique ça, eh ben c'est comme il dit nour ala nour, lumière sur lumière.
وأما الغبطة التي لم تحند فيتمنى حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات وتناول الشهوات كقصة قوم قارون.
Et quant à la jalousie, al-ghibta, qui n'est pas louée, c'est le fait de vouloir les choses d'ici-bas, simplement par jouissance, et pour avoir al-shahwat, c'est-à-dire les plaisirs, comme l'histoire de Qarun. L'histoire de Qarun, c'est-à-dire, Qarun, vous connaissez, qui était quelqu'un du peuple de Moussa, et qui était très riche, et les gens, ils l'ont jalousé. Sans, c'est-à-dire ce qui est cité dans le Coran, les gens, ils n'ont pas voulu qu'il perde sa fortune, mais ils ont voulu avoir comme lui. Donc ça, c'est pas recherché et c'est pas loué, parce qu'il n'y a pas de bien derrière.
قال ابن القيم عند قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد تأمل تقييده سبحانه وتعالى شر الحاسد بقوله إذا حسد لأن الرجل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه ولا يظهر عليه ولا يظهر عليه بوجهه ولا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده بل لا يجد في قلبه شيئا من ذلك ولا يعامل أخاه إلا بما يحب الله فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصم الله.
ابن القيم il a dit sur la parole d'Allah dans sourate al-Falaq ومن شر حاسد إذا حسد, c'est-à-dire je cherche protection contre le mal du jaloux lorsqu'il jalouse. Il dit, regarde comme Allah a conditionné. Et il a dit, lorsqu'il jalouse. Il n'a pas simplement dit le mal du jaloux. Il a dit le mal du jaloux lorsqu'il jalouse. Il dit, parce qu'une personne, elle peut avoir de la jalousie, mais elle le cache. Et ça n'apparaît ni sur son visage, ni dans son cœur, ni dans sa langue, ni par sa main. Mais au contraire, dans son cœur, il ne trouve rien de ça. Mais c'est-à-dire un peu de jalousie qu'il peut avoir. Comme ça, elle n'est pas implantée et elle ne s'extériorise pas. Et il ne traite pas son frère si ce n'est que parce qu'Allah aime. Et pourtant, au fond de lui, il a une sorte de jalousie. Il dit ça, Ibn Qayyim, il dit ça, personne n'en est épargné. C'est-à-dire, tout être humain, il le ressent ça. Et personne n'est innocent de ce genre de jalousie. Donc ça veut dire que ce n'est pas une jalousie qui est... elle n'a pas de mal. Elle n'a pas de mal comme conséquence. Et n'en est protégé que celui qu'Allah a protégé. Et donc la jalousie a trois degrés. إحداها هي المتقدمة. Le premier degré c'est celle qu'Ibn al-Qayyim il a cité ici. C'est-à-dire une jalousie qui est dans le cœur sans conséquence.
الثانية تمني استصحاب عدم النعمة فهو يكره أن يحدث الله بعبده نعمة بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه.
أو شتات قلبه عن الله أو قلة دينه فهو يتمنى ما هو فيه من نقص وضعف.
Il dit la deuxième sorte, c'est que la personne elle aime pas qu'Allah il crée un bienfait pour une personne, mais il aimerait que la personne elle reste dans sa faiblesse ou dans son ignorance ou dans son manque de religion. C'est-à-dire il veut que la personne elle reste dans sa faiblesse et dans son manque.
فهذا حسد على شيء مقدر والأول حسد على شيء محقق وكلاهما حاسد عدو نعمة الله وعدو نعمة الله وعدو عباده وممقوت عند الله تعالى وعند الناس.
Là, il faut que je redise la parole. En fait, dans cette Thania, il y a deux. Parce qu'il dit Tamanni istishabi adam ni'ma jusqu'à la phrase. Après, il dit Bal yuhibbu an yabqa ala hali. C'est-à-dire, pour ceux qui suivent sur lui, regardez qu'il parle de deux. Parce qu'après, il dit le premier et le deuxième. Et il dit les deux sont blâmés. Donc, il parle toujours dans Thania. Parce qu'Oula, il a bien dit qu'elle n'était pas blâmée, la première. Mais la deuxième, il y a deux degrés dedans. Il dit c'est que la personne Tamanni istishabi adam ni'ma. C'est-à-dire, tu aimerais que Ni'ma, elle disparaisse de la personne. Il dit, et pire, c'est que tu aimerais que la personne, elle reste dans le mal sur lequel elle est, dans sa faiblesse, dans son ignorance. Donc, c'est deux choses. Il dit donc, la première, c'est une jalousie. Donc, attendez, je relis bien. فَهَذَا حَسَدٌ عَلَى شَيْءٍ مُقَدَّرٍ. Donc, le fait que la personne, elle est rien, et toi, tu veux qu'elle reste comme ça, ça, c'est une jalousie sur quelque chose qui est muqaddar, qui est évalué, que tu t'imagines. Parce que la personne, elle n'a rien. Donc, tu ne la jalouses pas pour quelque chose. Tu aimerais qu'elle reste comme elle est. Faible, ignorante, pas dans la religion, etc. Donc, c'est pas que tu l'as jalousée pour quelque chose qui est là. Tu la jalouses pour quelque chose qui pourrait arriver. Et l'autre, c'est de jalouser pour quelque chose qui est là. Elle a un bienfait, toi, tu veux qu'il parte. Shay'un muhaqqaq. Quelque chose qui est réellement là. Donc, les deux, il dit les deux, celui qui fait celui-là ou celle-là, c'est un jaloux. Et c'est un ennemi du bienfait d'Allah et un ennemi vis-à-vis des serviteurs d'Allah. Et il encourt la colère d'Allah et la colère d'Allah et la colère des gens. الثالثة حسد الغبطة وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه فهذا لا بأس به ولا يعاب صاحبه بل هذا قريب من المنافسة قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. La troisième, c'est « al-ribta », qui est que tu espères avoir comme la personne que tu jalouses, sans que la personne, elle perde quoi que ce soit. Il dit ça, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire que tu vois une personne, elle a un bien, tu dis « j'aimerais bien avoir le même ». Donc en français, ça s'appelle l'envie, mais tu le ou de la jalousie. C'est-à-dire en français aussi, il y a une différence entre les deux, moi je ne sais pas la faire, mais en tout cas, il dit ça, il n'y a pas de mal, et celui qui le fait, il n'est pas blâmé. Et c'est plus proche de « al-munafasa », c'est-à-dire la concurrence. Et Allah dit « C'est en ça que doivent se faire concurrence ceux qui se font concurrence. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. Et dans le hadith il est dit il n'y a de jalousie que dans deux choses. Un homme à qui Allah a donné de l'argent et qui le dépense dans la vérité. Et un homme à qui Allah a donné la sagesse et par laquelle il juge et qu'il l'enseigne aux gens. Donc c'est-à-dire que ça montre que c'est permis. Tu peux jalouser les gens pour ça. Est-ce que tu peux jalouser les gens pour autre que ces deux choses-là? Oui. Parce qu'il y a encore d'autres. Il y a aussi le bon comportement, il y a encore d'autres. Mais c'est comme si ici il disait, il y a la vraie jalousie qui est louée et qui est recherchée, c'est celle-là. فَهَذَا حَسَدُ رِبْطَ. Donc ça c'est الْرِبْطَ. C'est l'envie. الحامل لصاحبه كبر نفسه وحمل خصال وحب خصال الخير والتشبه بأهلها والدخول في جملتهم وأن يكون من سابقيهم وعليه فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمصارعة. Donc attendez, il faut que je relise bien la phrase. Il dit ça, c'est al-ghibta, c'est l'envie. Et ce qui pousse la personne à ça, c'est le fait d'aimer le bien, d'aimer les bons caractères, et d'aimer et d'espérer être parmi les gens du bien, et d'être parmi ceux qui précèdent au bien. Wa alayhi فتحدث له من هذه الهمة فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته لمن يغبطه وتمني دوام نعمة الله عليه فهذا لا يدخل في الآية بوجه ما. Donc ça, ça va créer en la personne une certaine munafasa et une musara'a, c'est-à-dire une concurrence et un empressement au bien, sans que la personne elle cherche à ce que les autres y perdent leurs bienfaits. Donc ça, ça ne rentre pas dans le verset, c'est-à-dire dans le verset qui blâme la jalousie. Donc là encore, il a cité une parole de l'Ghazali, et celle-là, j'avais, c'est-à-dire quand j'ai relu le cours avant de venir, celle-là, je vous la lis. Il dit, نقال الغزالي الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب ولا دواء لأمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. Donc il dit, الحسد, la jalousie fait partie des grandes maladies du cœur. Et les maladies du cœur ont pour seul remède la science ou le savoir et les actes. Donc il dit, والعلم النافع لمرض الحسد. Donc quant à la science bénéfique par rapport à la jalousie, c'est-à-dire en quoi elle est un remède, هو أن تعرف أن الحسد ضرره عليك في الدين والدنيا والمحسود لا ضرر عليه في الدنيا ولا في الدين. Il dit, c'est que tu saches que la jalousie, c'est un mal pour toi ici-bas et dans l'au-delà, et qu'elle ne cause aucun mal à celui que tu as jalousé, ni ici-bas ni dans l'au-delà. بل ينتفع بحسدك في الدين لأنه مضروم من جهتك. Au contraire, ça va lui être bénéfique dans sa religion, c'est-à-dire celui que tu es en train de jalouser, parce qu'il va être opprimé à cause de toi. Il est مظلوم. لا سيما إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل. Surtout si tu as sorti la jalousie par des actes et des paroles. وما منفعته في الدنيا فهو أنه من أهم أغراض الخلق غم الأعداء. Quant à comment il va bénéficier de ta jalousie ici-bas, c'est parce que un des grands buts des gens ici-bas, c'est le souci de leurs ennemis. Quant à un ennemi, tu veux qu'il soit soucieux et tu veux qu'il soit malheureux. Et toi, justement, tu as été malheureux par ta jalousie. Donc ton ennemi, il va en être content. Donc dans les deux cas, il est gagnant. C'est pas celui qui est jaloux qui est gagnant, mais celui qui subit la jalousie. Donc le Cheikh dit, quand tu sais ça, ça va t'amener à te dégager de la jalousie. Et quant aux actes, donc ça c'est en ce qui concerne la science. Quant aux actes, comment ils sont un remède, c'est que tu te forces à accomplir l'inverse de ce à quoi te pousse la jalousie et de ce que t'ordonne la jalousie. Et la jalousie, elle te pousse à détester et à faire du mal à celui que tu jalouses. فَيُكَلِّفُ نَفْسَهُ الْمَدْحَ لَهُ وَالثَّنَاءَ عَلَيْهِ. Donc toi, tu dois te pousser à l'inverse à louer cette personne et à bien parler d'elle. وَإِنْ حَمَلَهُ عَلَى الْكِبْرِ أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِالتَّوَاضُعِ لَهُ. Et si ça la pousse, cette jalousie, elle le pousse à l'orgueil, alors il pousse son âme à être modeste et à s'humilier. وَإِنْ بَعَثَهُ عَلَى كَفِّ الْإِنْعَامِ عَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ زِيَادَةً فِي الْإِنْعَامِ. Et si cette jalousie, elle le pousse à retenir la bienfaisance envers la personne, eh ben tu te forces au contraire à être bienfaisant et à avoir des bienfaits envers cette personne. فَهَذِي أَدْوِيَةٌ نَافِعَةٌ لِلْحَسَدِ إِلَّا أَنَّهَا مُرَّةٌ. Il dit, ça ce sont des remèdes contre la jalousie, mais ces remèdes, ils sont amers. وَيُسَهِّلُ شُرْبُهَا الْاِسْتِعَانَةُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Mais ça te facilitera de boire ces médicaments si tu demandes l'aide d'Allah Azza wa Jalla. Un dernier hadith, donc عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. Donc il dit ici, l'homme dur n'est pas celui qui fait peur aux gens, as-sura'a, ou celui qui réagit vite, ou celui qui se met en colère. As-sura'a, c'est un mot global. Mais le dur, c'est celui qui contient son âme lors de la colère. Ça, c'est dans les deux sahih. Donc il dit, Cheikh, الحديث يدل على أن القوة الحقيقية ليست هي قوة العضلات
والقوة البدنية، وإنما القوة الحقيقية هي القوة المعنوية، فليس الشديد القوي هو الذي يصرع دائما غيره من الأشداء.
Le hadith nous montre que la vraie force, la réelle force, c'est pas la force des muscles ni la force du corps, mais la force réelle, c'est la force abstraite. Donc il dit le dur, c'est ne pas celui qui fait peur aux autres parmi les durs et qui est plus fort que les autres.
وإنما الشديد هو الذي جاهد نفسه وقهرها حينما يشتد به الغضب فيملك زمامها.
Mais le dur, c'est celui qui combat son âme et qui la domine lorsqu'il est en colère et qui la tient par les rênes.
فلا يقدم على فعل محرم على فعل محرم من اعتداء ويمسك لسانه فلا يتفوه بكلام محرم من شتم أو لعن أو قذف أو غير ذلك.
Donc il ne s'avance pas à faire un acte blâmable comme la transgression, et il tient sa langue et il ne prononce pas une parole interdite comme une insulte ou une malédiction ou une accusation ou autre chose encore.
C'est-à-dire c'est ça l'homme dur, l'homme fort dans l'islam. Celui qui est considéré comme fort, c'est celui qui, lorsqu'il est en colère, il va retenir sa colère et ça ne va pas le pousser à transgresser et ça ne va pas le pousser à dire des mauvaises paroles.
C'est ça qui est considéré comme l'homme fort.
Il dit dans l'explication Al-Ghadabu gharizatun fil insan.
Il dit la colère s'est implantée dans l'être humain.
فإذا جاء ما يبعثها تحركت نفسه من داخلها إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام.
Il dit donc quand vient les causes de la colère et le début de la colère, l'âme de la personne elle bouge en elle-même jusqu'à ce que ça ressorte et il veut se venger.
فالقوي الشديد هو الذي يجاهد هذه الحركة.
Donc le fort dans l'islam, dans la sunna, c'est celui qui va combattre son âme pour contenir cette réaction justement.
ويقوى عليها.
Et il va être plus fort que cette réaction.
فيصدها عما تريده من الانتقام.
Et il va empêcher cette réaction d'avoir les conséquences, c'est-à-dire il ne va pas se venger. Il va stopper cette réaction.
أما ما جاء من الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني فقال لا تغضب فالمراد أمران.
Il dit, quant au hadith qui est dans Sahih al-Bukhari d'Abu Huraira, où il a dit, un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, conseille-moi. Et il lui a dit, ne te mets pas en colère. Il dit, ce qui est voulu par là, c'est deux choses.
Al-Awwal, yusihi bi an yu'mil al-asbab allati tujibu lahu husn al-khuluq. Min al-hilm wal-ana'ah wal-haya' wal-ihtimal wa kaff al-adha wal-safh wal-afu wa kadhm al-ghayb wa nahwi dhalik. فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه.
La première chose qui est voulue dans la parole du prophète, ne te mets pas en colère, c'est que la personne doit pratiquer les causes qui l'amènent au bon comportement. La clémence, la patience, la pudeur, le fait de supporter, le fait de ne pas nuire aux gens, le fait de pardonner, le fait de contenir sa colère, etc. C'est-à-dire sans que, on ne parle pas de au moment où il doit se mettre en colère. On parle dans sa vie de tous les jours, la personne elle doit s'habituer à ces comportements-là. Parce que quand l'âme humaine, elle adopte des comportements, ça va devenir une habitude pour elle. Et donc le jour où les causes de la colère vont arriver, il ne va pas se mettre en colère. Parce qu'il s'est déjà habitué à tout l'inverse.
الثاني أنه يوصيه أن لا تعمل أن لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك.
Le deuxième sens du hadith, ne te mets pas en colère, c'est lorsque vient ce qui te met en colère. C'est-à-dire, n'agis pas en conséquence de la colère quand te vient la colère, quand te vient ce qui te met en colère.
بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمرك به.
Mais au contraire, combat ton âme à délaisser l'application de la colère et de ne pas agir à ce que cette colère t'ordonne.
فإن الغضب إذا ملك من بني آدم كان هو الآمر والناهي له، ولهذا قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب.
Parce que quand la colère prend possession de la personne, c'est elle qui l'ordonne et c'est elle qui l'interdit. Ça veut dire c'est elle qui va dicter ses actes. C'est pour ça qu'Allah dit lorsque la colère se fut calmée de Moussa, se tue entre guillemets de Moussa, dans l'histoire de Moussa alayhi salam.
فضيلة الحلم le mérite de la clémence. Al-Hilm ici, ce que veut dire, c'est l'inverse de l'ghadab, et l'inverse de la vengeance.
Qala ta'ala, wal-kadhimina al-ghayd. Allah il a cité parmi les caractéristiques des croyants, al-kadhimina al-ghayd, ceux qui contiennent leur rage.
Waqala, wa idha ma ghudibu, hum yaghfirun. Et dans un autre verset, il a dit à propos des croyants, lorsqu'on les met en colère, ils pardonnent.
وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه من حديث معاذ بن أنس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا هو قادر على أن ينفذه من كظم غيظا هو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق ويخيره من أي الحور شاء.
Dans le hadith ici et dans le sunan, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui contient une rage, qu'il est capable d'appliquer. Capable d'appliquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un t'a mis en colère et t'es capable de l'appliquer. Ça veut dire que t'as la force et tu ne crains personne. Et la personne, elle est plus faible que toi. Ça peut être ton enfant, ça peut être ta femme, etc.
Donc il dit, celui qui contient une rage, qu'il est capable d'appliquer, Allah l'appellera devant toutes les créatures et il lui fera choisir les flammes du paradis qu'il veut. Donc c'est un mérite pour ceux qui contiennent leur colère.
والآثار والحكم المنقولة عن العلماء والحكماء في هذا الباب كثيرة جدا.
Et les sagesses qui ont été rapportées des ulama et des sages sur ce sujet sont nombreuses.
On peut citer aussi le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des bédouins, il est venu, et les bédouins ils étaient connus pour pas avoir d'éducation. Il est venu, il a attrapé le prophète par son col et il l'a tiré. Anas il dit, à tel point que je voyais la trace du col du prophète dans son cou. Et il lui a dit, je crois qu'il lui a dit, « Ya Muhammad, iqsim li min malillah illadhi a'tak. » Il lui a dit, « Donne-moi des biens qu'Allah t'a donnés. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a regardé, il a rigolé. Anas, il a dit, la réaction du prophète, « Dahik al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. » Il l'a regardé, il a ri de son ignorance, c'est-à-dire son comportement. Et il a dit, « Donnez-lui autant, autant, autant. » Ça serait nous maintenant. Tu le tires par le col, tu le tires par le dos, tu l'emmènes et tu le jettes je sais pas où.
Mais après, si on fait ça, c'est quoi qui va en pâtir? C'est l'islam. Et c'est la réputation de l'islam.
Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc le prochain hadith, ça sera 1292.
Juste, je parle par rapport aux frères qui sont sur Paltok. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils diffusent mes cours sur Paltok. Ils ne m'ont pas demandé l'autorisation. Donc déjà, c'est un manque de politesse. Ça se fait pas. C'est un clair manque de adab de passer des cours de quelqu'un sans lui demander. Et donc pour ceux qui font ça, je vous permets de le faire que sur les cours sur As-Sunna qu'on a fait à Chalon et à Metz, c'est-à-dire les cours qui s'appellent la Sunna et l'histoire du Hadith. Pourquoi pour les autres cours je le permets pas? C'est parce que les autres cours c'est des cours qui amènent à discussion, c'est-à-dire il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord. Et Paltok c'est un champ de bataille où il y a tout et n'importe quoi. Et moi, je ne veux pas attirer ce genre de discussion autour de moi et autour de ma personne. Donc, je permets qu'il y ait de diffuser que le cours sur la Sunna. Donc ça, je ne parle pas des frères du centre, ou je parle des frères sur Paltok qui ont pris mes cours et les ont mis comme ça, sans me demander.
Voilà. Wa nas'alullah ta'ala an yarzuqana al-ilma an-nafi' wal-amal as-salih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.